La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine de la compagnie des auteurs, en compagnie cette fois de José Luis Borges, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Chloé Caxmarek, Laurence Millet, Laurence Yenpin et Pierrick Monsigny. Borges, pour le prononcer à la française, est une référence littéraire absolue pour de nombreux écrivains et nous allons tenter de comprendre cette semaine pourquoi. Je dis bien tenter car avec cet écrivain argentin né un an avant le XXe siècle et mort en 1986, on est toujours dans les conjectures, dans les hypothèses, dans le labyrinthe, rarement en pleine lumière, mais ce n'est pas gratuit car il faut une certaine ombre pour préserver la liberté du lecteur. Or pour Borges, le lecteur est celui qui transforme le texte. Et un lecteur libre parmi d'autres grands lecteurs de Borges, c'est l'écrivain Christian Garcin. Il a rédigé un ouvrage sur cet auteur qu'il admire dans la collection L'un et l'autre chez Gallimard. Il viendra nous en parler jeudi. La veille, mercredi, avec le philosophe Jean-Clé Martin, nous parlerons du fantastique chez Borges, mais aussi du thème de la cécité, ainsi que de certains grands motifs de son œuvre. Enfin, demain mardi, avec Annick Louis, chercheuse en littérature à l'EHESS, nous parlerons notamment de Borges face au fascisme, pour reprendre le titre de l'un de ses ouvrages. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre émission introductive et biographique, je reçois l'essayiste et romancier François Taillandier. Il est l'auteur de plusieurs cycles romanesques, comme par exemple celui de La Grande Intrigue aux éditions Stock. Nous l'avions également reçu il y a quelques mois pour sa biographie de Balzac dans la collection Folio Biographie. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il est surtout l'auteur de l'essai Borges, une restitution du monde, paru en 2003 au Mercure de France. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Il pense que sa vie ne compte pas. Il est resté en cela fidèle à l'une de ses croyances qu'il avait trouvé très bien exprimée chez Valéry, quand Valéry dit que l'histoire de la littérature pourrait être écrite sans qu'un seul nom d'auteur soit mentionné. Mais c'est la grande contradiction de Borges, non? C'est-à-dire prôner l'impersonnalité et devenir célèbre à cause d'une excessive, si on peut dire, personnalité.
Bonjour François Taillandier.
Bonjour.
On vient d'entendre la voix d'Hector Biancotti évoquant la contradiction qu'il y a chez Borges à refuser que l'on parle de sa biographie, alors qu'en réalité, il est un homme célèbre. Vous la voyez aussi, cette contradiction ?
Oui, je vois bien ce qui a été cité là. Borges est un homme surtout dont la biographie n'offre peut-être pas de choses très extraordinaires.
En tout cas, elle offre assez peu de prises.
Voilà, et surtout qu'il n'en a pas voulu, je crois. Alors, c'est très très ambigu, parce que il s'est arrangé aussi pour mettre en circulation un certain nombre de données le concernant, qui en font un personnage. Hein. La cécité, notamment, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Il a monnayé un symbole, d'une certaine manière. Mais c'était toujours avec l'idée... La vie d'un auteur, d'un écrivain n'a aucune espèce d'intérêt. Enfin, la phrase de Valéry qui a été citée dit exactement ça. Et, en effet, il a toujours été dans cette idée, tout en construisant, je crois, un personnage de façon un peu plus consciente qu'on ne l'a dit.
Est-ce que il est tellement lu finalement parce que c'est un nom, c'est une personne célèbre. En même temps, est-ce que ce n'est pas aussi un écrivain pour écrivain ? Est-ce qu'il est lu en France par le grand public, selon vous ?
Je ne me rends pas tellement compte. Bon, ce que l'on peut savoir, c'est qu'il est mondialement connu et traduit, ça c'est une chose. Alors, c'est un auteur très déroutant aussi, je pense. Moi, je me souviens de ma propre rencontre avec les œuvres de Borges, à travers Fiction, qui est son livre le plus célèbre. Je me rappelle avoir été tout à fait intrigué. Il a fallu que je prenne un crayon et puis que je me dise, bon, qu'est-ce qu'on me dit là ?
Donc il faut faire un effort au départ pour rentrer dans le texte.
Il ne faut pas le cacher, il y a un effort à faire pour rentrer dans Borges. On est très bien récompensé, mais il faut accepter de rentrer dans son système qui au départ est très spécial. Ça ne ressemble à rien d'autre, Borges.
Mmh. Les Borgésiens, comment sont-ils ?
Ah ben, je ne sais pas, je ne connais pas les Borgésiens.
Ah bon, parce que vous dites, Borges est de ceux qui attirent inexplicablement, mais massivement, grotesque engeance des turiféraires et des porte-crosses.
Oui, là c'est peut-être un peu méchant.
Vous avez écrit ça il y a longtemps.
Non, ce que je voulais dire par là, c'est que, oui, Borges en même temps indique comment il doit être lu. Voilà, ça c'est... Il y a de grands écrivains qui ont cette espèce de tour d'esprit, qui font qu'ils donnent même les clés. Voilà ce que vous devez lire, voilà ce que vous devez comprendre. Je me suis beaucoup intéressé à Louis Aragon dans un tout autre genre, c'était ça aussi. Alors, en effet, le commentateur a souvent du mal à se démarquer, à se décaler. On a tendance à dire de Borges ce qu'il a dit lui-même sur son œuvre. Voilà, c'était ça que je voulais dire. La grotesque engeance, j'étais bien méchant, je devais être de mauvaise humeur.
Mais non, mais c'était encore une fois, il y a bien longtemps, dans la fougue de l'écriture de votre premier essai sur Borges, que vous ne reniez pas, mais enfin vous le conseillez
non,
pas forcément.
J'avais fait un premier essai sur Borges, où il y a la proposition d'édition François Bourin à l'époque, François Bourin-Julliard. Ça a été publié. Je n'en étais pas très content. Donc, lorsqu'il s'est présenté l'occasion de revenir sur ce travail, j'ai refondu ce livre, donc au Mercure de France. Là. Mmh. Et là, je pense avoir dit, provisoirement en tout cas, ce que j'avais à dire.
Alors, écrire la vie de Borges, on a bien compris que c'était difficile. C'est même extrêmement hasardeux, puisque Borges disait de lui-même « personne ne sait qui il est ». Est-ce que ça veut dire « personne ne sait qui il est, lui, Borges » ou est-ce que « personne ne sait qui ». Il est lui-même qui que ce soit.
Ah ben, dans son esprit, je crois que c'est universel. Borges est un esprit profondément et philosophiquement sceptique. Voilà. Il considère que tout ce que nous pouvons dire de nous-mêmes, ou du monde, ou de l'univers, c'est un mot qu'il aime employer, est toujours conjectural. Voilà. Donc la vérité de nous-mêmes, qui sommes-nous ? On dit, ben voilà, je suis écrivain, je suis, comme il disait, un poète mineur de l'hémisphère austral. Et quant à sa vie, il y a une formulation que j'aime beaucoup chez lui, il disait, je n'ai fait qu'éprouver les communs aléas de la fortune humaine. C'est-à-dire, je ne suis personne d'intéressant.
C'est de la coquetterie,
et je ne sais pas
ça, quand même, non ?
Ce que je suis. Il y a une coquetterie, mais enfin, c'est aussi une philosophie, d'une certaine manière.
Une philosophie qui conduit à quoi, alors ? Qui ouvre sur quoi ?
Ben, qui ouvre sur... Alors là, c'est le miracle Borges, parce que ça ouvre sur une création qui est ouverte à toutes les conjectures, à toutes les hypothèses. Mais ce qui me fascine chez Borges, c'est que, par exemple, je ne suis pas certain qu'il soit très religieux, mais il s'est intéressé au bouddhisme, il s'est intéressé à la théologie chrétienne. Il est même parfois très ironique sur les théologiens, par exemple. Il est très ironique sur la foi, mais il ne refusait pas ça. Il est très ironique sur une capacité à connaître le monde, mais il envisage tout, aussi bien les mathématiques à travers Bertrand Russell que le bouddhisme, que... Il essaye toujours de tout prendre en compte et de dire, ben voilà, ce sont nos rêveries sur la vie, sur l'univers. Et il joue beaucoup avec ça. Et il s'amuse à croiser les hypothèses, à passer d'un sujet à un autre, d'une culture à un autre. C'est très jouissif d'ailleurs, hein. C'est ce qui fait l'immense plaisir qu'on peut avoir quand on est dans Borges.
Et puis le plaisir, François Taillandier, c'est peut-être le plaisir du mystère qui reste finalement imperçable. Et même quand on a écrit comme vous deux ouvrages sur Borges, on ne perce pas totalement son mystère. C'est avec le mystère au fond qu'il écrit ses fictions.
Oui, je crois. Alors, d'abord avec une culture immense et une multitude extraordinaire de références. Et puis, oui, avec ce sens du mystère. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en nous ? Qu'est-ce qui explique nos passions ? Et voilà, oui, je crois que c'est un homme qui a le sens du sacré, certainement, de l'énigme. Voilà.
Et vous dites
il travaille en poète sur l'énigme. C'est ça qui est beau. C'est pas un philosophe, Borges. Il y a une certaine philosophie qui se dégage de son œuvre, si on veut. J'ai essayé un peu de la définir. Mais c'est surtout d'abord un poète. Il joue.
Jean-François Taillandier, vous avez cette expression que vous allez peut-être nous expliquer pour définir votre Borges. Vous dites que c'est un prophète de la modernité. Mais de quelle modernité parle-t-on ici ?
Je pense que c'est un homme qui, de par son éducation, sa culture, sa formation, d'abord avait un sens de l'universel. C'est un homme très cosmopolite qui est au contact de cultures très différentes. C'est-à-dire que tout en étant très enraciné, parce qu'il aime sa ville natale, Buenos Aires, il aime son pays, il a une ouverture sur le monde. Oui, je crois me souvenir que j'ai développé l'idée que dans notre monde qu'on a dit depuis mondialisé, eh ben, s'il y a un écrivain au XXe siècle qui s'est mondialisé, c'est bien lui. Ouais. Alors il y a à d'autres égards, on pourrait le dire. Borges, je pense, n'a pas eu le temps de connaître tellement les réseaux et l'Internet, mais je pense que ça l'aurait fasciné. Vous savez, il y a cette fameuse nouvelle qui s'appelle l'Aleph. Il s'agit d'une sorte de boule de cristal dans laquelle on peut voir se refléter n'importe quel point de l'univers, etc. Bon, alors, Borges fait des variations poétiques là-dessus. Je pense que, oui, s'il avait vu les moteurs de recherche et l'Internet, il aurait certainement été fasciné. Je ne sais pas ce qu'il en aurait dit.
Peut-être même le Darknet l'aurait encore plus intéressé.
Peut-être que le Darknet l'aurait encore plus intéressé. Donc, oui, je crois que c'est un auteur extraordinairement moderne en son siècle. Il l'a été aussi pour d'autres raisons, qui sont peut-être un peu moins visibles, mais je me rappelle cette remarque extraordinaire qu'il fait, je ne sais plus dans quel livre, malheureusement, où il dit le phénomène majeur du XXe siècle, et l'immixtion croissante des États dans la vie de l'individu. Bon, il le disait, lui, évidemment, par rapport au totalitarisme et au fascisme dont il était clairement l'opposant. Je crois que nous sommes en plein dedans. D'une autre façon, nous ne sommes plus dans un totalitarisme, bien évidemment. Mais l'immixtion graduelle de l'État dans la vie de l'individu... On n'a peut-être pas le temps, mais on pourrait en donner beaucoup d'exemples aujourd'hui.
Nous c'est un individualiste
pris dans des toiles,
total, hein. Alors Borges.
Alors lui est un individualiste, alors, politiquement parlant.
Un libertarien, un petit peu.
Je ne sais pas, je crois que c'est, d'après ce que je sais de lui, ce que j'ai compris de lui, d'abord il est d'une classe sociale assez aristocratique, et il a un sens profond de la liberté et de l'individualisme. Mais ça le fascine, par exemple, chez le gaucho, le personnage du gaucho est très important. Cet homme des pampas qui ne rend compte à personne, n'est-ce pas ? Et Borges est très, très, très attaché à l'individualisme.
Justement. Mais il est attaché tout de même, vous le dites, au gaucho, parce qu'il vient de Buenos Aires et d'une famille de la bonne société portaigne, et qu'il a un rapport avec sa ville natale qui est très proche quand même, François Taillandier.
Ah oui, 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 oui. Oui, Borges a écrit sur Buenos Aires des poèmes entiers. Et toute sa vie, il a été... Alors qu'il a beaucoup voyagé, par contre, il a été dans beaucoup d'endroits au monde, mais il revient toujours au faubourg de Buenos Aires, au petit troquet où l'on danse la milonga, aux compadritos, les petits voyous, un peu, les petits...
Les petits voyous qui étaient, justement...
Qui fascinent.
Qui vivaient dans son quartier. C'était un quartier qui, aujourd'hui, est sans doute un quartier... qui s'est gentrifié, comme
sans
un
doute,
peu partout. Mais à l'époque, c'était en effet un quartier où on jouait du couteau.
Oui, oui, oui. Et puis il revient indéfiniment sur ses arrière-cours où il y a un puits, et puis un bassin avec une tortue. Des choses comme ça qui, paraît-il, dans sa ville à son époque, étaient banales.
On va écouter alors justement un poème de jeunesse, hein, parce que ces poèmes sur sa ville de Buenos Aires sont parmi ses premières œuvres.
Oui, je crois, oui.
On va écouter ça tout de suite.
Buenos Aires. Je suis né dans une autre ville qui s'appelait aussi Buenos Aires. Je me souviens du bruit que faisaient les ferrailles de la grille. Je me souviens des jasmins et de la citerne, objet de nostalgie. Je me souviens d'un emblème de couleur rose qui avait été rouge ponceau. Je me souviens de l'éclat du ciel et de la sieste. Je me souviens de deux épées en croix qui avaient servi au désert. Je me souviens des becs de gaz et de l'homme avec sa perche. Je me souviens des temps chaleureux, des gens qui arrivaient sans prévenir. Je me souviens d'un bâton avec sa pointe. Je me souviens de ce que j'ai vu et de ce que m'ont raconté mes parents. Je me souviens de Macedonio dans un coin de la confiserie du 11. Je me souviens des charrettes de l'arrière-pays dans la poussière du 11. Je me souviens du magasin de la figure dans la rue de Tucumán. Au tournant, mourut Estanislao del Campo. Je me souviens d'une troisième cour, où je ne pénétrais pas, qui était la cour des esclaves.
Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo.
Le poème Buenos Aires de Borges, qu'est-ce que vous retenez, François Taillandier, de l'écoute de ce poème-là ?
C'est très Borges dans le sens, par exemple, du goût de l'énumération. Ça, c'est l'énumération et puis cette mémoire fragmentée. Il ne doit pas disserter sur Buenos Aires.
Ce sont des images, des flashs.
Voilà, je me souviens, oui, de la grille du jardin, etc., etc. Voilà.
C'est très visuel, alors, comme poésie.
C'est très visuel, oui, oui, oui. Et Borges, en plus, cette obsession de la mémoire absolue, mais qui est presque parfois douloureuse chez lui. Je me souviens, je me souviens, je me souviens. Vous savez, il a inventé un personnage dans une de ses nouvelles, qui s'appelle Funès. Ouais. Et Funès, c'est la mémoire absolue.
C'est l'hypermnésie.
Voilà. Et il décrit ce destin comme un cauchemar.
Donc, parce qu'il se souvient de tout. Et alors, il est capable de raconter exactement la journée qu'il a vécue il y a 10 ans, ce personnage de Funès. Sauf que ça lui prend évidemment une journée, parce que comme il se souvient de tout.
Oui, oui, enfin, ça devient épouvantable.
Ça correspond à quoi, ça, chez Borges? Parce que c'est fascinant, cette idée.
Je sais pas. D'abord, je pense, en effet, à une capacité extraordinaire à la mémoire. Borges a une immense culture.
Qui l'encombrait, alors, peut-être.
Voilà, voilà. Il parle souvent de l'insomnie aussi, l'insomnie où il y a une remémoration qui peut devenir très douloureuse. Alors ça fait partie des secrets de sa vie, de sa personnalité. Peut-être que la cécité aussi joue un rôle à cet égard, puisqu'il rentre progressivement à l'âge mûr dans la cécité. Donc je suppose, je n'en ai pas évidemment l'expérience, mais je suppose que la remémoration doit devenir beaucoup plus intense. Voilà. Et alors, c'est ce qui débouche dans Borges, sur ce thème du labyrinthe. Tout est labyrinthe, on n'en finit plus. Un souvenir en rappelle un autre, mais ça ressemble aussi à quelque chose d'autre qu'on a vu ailleurs. Vous savez, il va faire des comparaisons entre une bataille au couteau dans une rue de Buenos Aires et quelque chose qu'il a lu dans un historien romain. Tout finit par rentrer en miroir, comme ça.
Mais ça paraît
c'est
très oppressant, en effet, cette mémoire.
C'est la magie, Borges. Ça peut être enthousiasmant, c'est coloré, c'est lumineux, c'est bon. Et ça peut être vécu comme oppressant. Et je pense que lui a réellement connu cette oppression. C'est sans doute pour ça qu'il essayait de la dominer par une écriture très contrôlée.
Ouais. Alors sa famille, quand même, on n'en a pas dit grand-chose, à part que c'est une famille de la noblesse, c'est ça, déclassée.
Ils ont des origines, ils sont apparentés à des gens célèbres de l'histoire argentine, enfin, c'est une grande famille. Je ne sais pas si on pourrait en parler de noblesse comme on le fait en France, mais enfin, ça ressemble un petit peu à ça. Hein.
Enfin, une caste dominante.
Une caste, voilà. Ouais.
Et vous reprenez d'ailleurs la théorie de Thomas Mann qui pensait que les écrivains et les artistes étaient le produit des lignées finissantes. Il y a quelque chose de ça chez Borges, de la lignée finissante?
Oui, j'ai cette impression. Je n'ai plus de détails très précis. Je ne sais pas si on en a beaucoup. Mais enfin, oui, il y a eu ces grandes familles du 19e siècle dans un pays comme celui-là. Alors après, il y a eu une génération qui s'enrichit, notamment à cause de la guerre de 1914, comme chacun le sait. Et on a l'impression avec Borges, oui, que ça n'est plus ça, quoi. Ils ne sont plus dominants. D'ailleurs, Borges sera un opposant au populisme péroniste, un opposant pour des raisons de classe sociale, de caste sociale, très clairement.
Donc on n'est pas dans la politique pure, on est dans une forme de continuation des différences sociales et des castes en Argentine.
Oui. Il y a quelque chose, je crois, chez Jean-Louis Borges qui est un élitisme. D'abord parce qu'il fait partie de la classe sociale qui a une formation très cosmopolite, comme je vous le disais tout à l'heure. Borges, dans sa jeunesse, voyage en Suisse, en Espagne. Il a une grand-mère qui est totalement très anglophone.
Et d'ailleurs, il peut parler anglais aussi bien qu'espagnol.
Il parle très bien anglais, il parle très bien français. Et il étudie au cours de sa vie des tas d'autres langues. Oui, il y a un sentiment d'appartenir Oui, ce qu'on appellerait un peu aujourd'hui une élite mondialisée. Bon, pas dans l'économie ou la finance, bien entendu, mais dans la culture, dans la connaissance. Il a conscience de ça.
Et son père...
Et il le rend très éclatant.
Ouais. Enfin, son père est avocat, il a une immense bibliothèque dans laquelle son fils va puiser énormément durant sa jeunesse.
Oui, oui. Ah bah oui, il y a beaucoup de choses qui lui sont données. Il est clair que c'est pas... de par sa famille, de par son milieu, il est au contact de classes qui sont cultivées, qui s'y connaissent en musique, qui... Bon,
voilà. Alors je vous propose d'écouter justement ce que Borges disait à propos de son père. Il le disait à Jean Montalbetti lors d'un après-midi de France Culture de décembre 1977.
Mon père, oui, je lui dois tout. Il m'a appris tant de choses. Il m'a appris à être sceptique surtout. Il était sceptique. Nous sommes venus en Europe parce qu'à Buenos Aires, enfin, c'était... Il était le fils du colonel Borges, il s'était fait tuer dans une de nos guerres civiles. C'était un avocat, il était assez connu. Et il a résolu un jour, il nous a dit, je veux être l'homme invisible de Wells. Et je le serai plus facilement en Europe, quoique je le suis déjà ici. Alors on est allé à Genève, en cherchant cette invisibilité, cet anonymat que j'ai cherché toute ma vie. Maintenant, depuis des mois, je suis devenu connu, mais je ne l'ai pas cherché, cela. J'ai voulu être l'homme invisible que mon père voulait être et qu'il n'a pas du tout réussi. Il était un écrivain, mais il a détruit presque tout ce qu'il écrit. C'est-à-dire, il a pensé que sa destinée littéraire pouvait être accomplie par moi, non par lui. Il m'a fait comprendre cela. Il m'a fait comprendre cela, et ça me le dire directement. C'est que peut-être la meilleure façon de faire comprendre les choses, non,
non. Vous risquiez autrement de le refuser.
Oui, peut-être. Mais comme c'était entendu que je serais un homme de lettres, et comme je me suis élevé dans la bibliothèque de mon père, et comme j'ai lu là les livres essentiels, non.
Les livres essentiels, c'est Chesterton, Carlyle, c'est Dostoïevski, c'est Schopenhauer, c'est Les Mille et Une Nuits.
Oui, c'est Dante.
C'est Dante aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui compte le plus pour lui, selon vous?
Ah, je ne saurais pas vous dire. Je pense que Dante ou Coleridge, ou alors il y a toute cette littérature anglaise qui, je crois, le marque énormément. Hein. Voilà. Oui, sinon, je dirais Dante. Il est absolument fasciné parce qu'il y a une relation d'une certaine façon. Dante crée cet univers
labyrinthe
peuplé de toutes sortes de figures dans une atmosphère fantastique, elle-même un peu labyrinthique d'ailleurs, si on peut dire. Je crois que pour lui, ça a été énorme. Et les Mille et Une Nuits. Et là, Borges, c'est quelqu'un qui fait ses Mille et Une Nuits, qui raconte des tas et des tas et des tas d'histoires. C'est jamais fini.
Donc c'est un...
L'histoire qui se ressemble, qui s'entrecroise, qui s'inverse, etc.
Donc toute l'œuvre de Borges, c'est un rapport à la littérature, c'est un rapport aussi aux autres écrivains, à ceux
qui
l'ont
précédé. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, c'est pas une œuvre d'innocent. Hein. C'est totalement codé. Enfin, je veux dire, il y a tout le temps des références. Et ce qui est magnifique, à mon goût, c'est que, bon, après peut-être quelques difficultés initiales, une fois qu'on y est entré, c'est limpide. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous a abasourdi sous une réduction lourde ou opaque. Hein. Au contraire, il en joue avec beaucoup de grâce et il stimule. On a envie de connaître ce dont il parle.
Mais alors, est-ce qu'il y a une clé? Est-ce que vous pouvez donner à nos auditeurs une clé d'entrée chez Borges?
Ouh là là, c'est bien compliqué ça. Je ne saurais pas quoi vous dire, moi. Moi, je peux donner la mienne, en définitive. Quand j'étais à la faculté, un professeur de littérature comparée me charge un jour de faire un exposé, de rendre compte d'une nouvelle qui est dans Fiction, donc c'est son recueil le plus facile à trouver, qui s'appelle « Le jardin au sentier qui bifurque ». Voilà. Je vous dois dire que j'ai passé deux bonnes journées à lire et relire. Ben voilà, ça a été ma clé d'entrée. Là, on comprend quel est le système Borges, mais il est très difficile à vous décrire comme ça. Oui. Personne, à ma connaissance, n'a construit un univers imaginaire de cette façon-là. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire mieux.
C'est pour ça qu'en tant qu'écrivain, il vous a apporté aussi beaucoup.
Moi, ce qu'il m'a apporté, c'est le goût de... Je me suis beaucoup servi de ça dans mes romans, c'est le goût de l'hypothèse. Dire, on ne saura pas de vérité objective sur quelque chose. Les événements sont mystérieux, les êtres sont mystérieux. On tourne autour, on essaie de voir ce que ça peut vouloir dire, tout ça. Et j'espère qu'il m'a apporté le scepticisme. Il en parle d'ailleurs à propos de son père. Le scepticisme qui n'est pas le fait de se foutre de tout, et qui est le fait de ne jamais être sûr qu'on est dans le vrai. C'est-à-dire toujours, oui, mais est-ce que tel autre point de vue n'est pas aussi le bon ? Je suis croyant, mais est-ce que Dieu existe ? C'est ça le scepticisme. On a le droit d'être croyant. Est-ce qu'on est vraiment si sûr que ça, que Dieu existe ? Après tout, il y a des gens qui ne le croient pas, et ils ne sont pas plus bêtes que l'autre. Donc, vous voyez...
Mais alors son père, là, que vous évoquez, et qu'il évoquait lui-même en archive, il lui a apporté, il lui a délégué sa vocation littéraire. C'est quand même quelque chose d'assez fort, ça.
Oui, enfin, c'est ce que dit Borges dans ce qu'on a écouté, en effet.
Vous n'y croyez pas ?
Bien sûr, c'est peut-être une reconstruction, ça aussi, c'est peut-être une hypothèse, je ne sais pas. Il me semble que Borges, d'après ce que j'en connais, dès le plus jeune âge, ne manifeste de toute façon aucune autre vocation que celle d'écrire. Lire surtout. D'ailleurs, parce qu'il commence par être lecteur, critique. Ouais. Il a écrit des pleines pages, d'innombrables articles de critique littéraire. Et il essaye, modestement, comme il dit, de proposer ces petites variations littéraires.
Il disait « J'ai toujours su, dès mon enfance, que mon destin serait littéraire. Je ne savais pas alors que la publication n'est pas la partie essentielle d'un destin écrivain. » Il écrit ça, d'un destin d'écrivain. Il écrit ça dans la préface des éditions de La Pléiade. Alors c'est quoi un destin d'écrivain, si ce n'est pas de publier ? C'est une façon de vivre, c'est une attitude.
C'est toujours pareil. Moi, je pense que... Il faut être à bonne distance. Borges, c'est un auteur qui n'a peut-être pas cherché une gloire facile et très jeune. Enfin, il n'était pas cherché à faire les best-sellers de la liste de livres hebdo. Bon, mais il a surtout cherché à composer une œuvre sans peut-être trop savoir où ça allait. Bon, faut pas oublier non plus qu'à partir d'un certain moment, il est devenu un écrivain largement traduit et connu dans le monde et qu'il avait conscience de faire une œuvre. Mais il insiste, et ça je pense que c'est sincère et que c'est très intéressant, sur le fait qu'il faut d'abord être un lecteur, qu'il faut d'abord avoir cette modestie-là. Voilà. Il a écrit, il a un sens des formules qui me ravit, moi. Il a écrit « Le génie, la plus grossière tentation de l'art ». Voilà. Il ne voulait être qu'un apprenti, que quelqu'un qui fait quelque chose. Je propose mes petites nouvelles, je propose mes petites histoires. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on devient un écrivain mondialement connu, ce qui est son paradoxe.
Il est donc un héritier, il est un héritier de l'histoire argentine, il est très attaché à l'histoire argentine, mais il est aussi un héritier de l'histoire européenne. Et faut expliquer quand même qu'avec ses parents, il a fait pendant plusieurs années le voyage en Europe que beaucoup de famille argentine faisait à cette époque-là. Il a vécu à Paris, à Genève, en Espagne aussi, François Taillandier.
Oui, bien sûr, oui. En Espagne, où il se mêle notamment à ce mouvement poétique qu'on appelait l'ultraïsme, qui est une sorte de petit frère espagnol du surréalisme, si on peut dire. Il se frotte énormément à la culture anglaise, à l'Italie, etc., etc. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est une affaire de caste sociale. Ça se fait à cette époque-là et dans son milieu, le grand voyage. Et le grand voyage, c'est l'Europe. Ces gens-là sont originaires d'Europe. Il ne faut pas oublier que c'est les descendants des conquérants.
Une volonté, précisément, de créer peut-être une littérature qui sera une littérature argentine.
Alors, il y a cette ambition aussi chez Borges, mais qu'il partage avec d'autres en son époque. De désenclaver, pour ainsi dire, la littérature de son pays. C'est-à-dire, il faut que nous rentrions dans ce qu'il estime être mondial. La littérature est mondiale pour lui. C'est le grand rôle que jouera auprès de lui Victoria Ocampo, la créatrice de la revue Sourd, le Sud, qui va jouer un rôle énorme, en effet, dans l'établissement de relations culturelles entre l'Europe, les États-Unis et le continent sud-américain.
Et d'ailleurs, vous racontez
très bien... Elle est très proche de Borges, en fait.
Vous racontez très bien à quel point elle incarnait le désir de vivre avec son temps, Victoria Ocampo, et comment elle a fait aussi beaucoup pour moderniser, pour la modernité de Borges.
Oui, puis pour la littérature argentine, Borges était très attaché à la littérature argentine, ce qu'il en existait avant lui. Et en même temps, des gens comme lui ou Victoria Ocampo se disent, on va pas éternellement raconter les histoires de Gaucho. Hein. Mm. On est capable.
Gaucho, c'est les gars Gaucho,
hein, c'est pas les gauchistes. Aux problèmes du monde, etc., etc. Hein, on va pas rester dans le folklore, même s'il adore ça.
Alors c'est elle qui lui a présenté Drieu La Rochelle aussi.
Oui, parce que Victoria Ocampo arrive très jeune d'ailleurs, et de façon très brillante, à nouer des relations avec des écrivains de toutes sortes d'autres pays. Et donc, oui, Borges se met un peu dans sa foulée. La rue Sourd est vraiment un milieu où on découvre, où on met en contact les gens.
Et aussi Bioy Casares.
Alors, Drieu La Rochelle, Roger Caillois, dont le rôle sera considérable pour la connaissance de Borges à l'étranger. Ouais. Et puis c'est son premier traducteur en France, et c'est un peu à partir de là que Borges acquiert une célébrité.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors François Taillandier, on va continuer de parler évidemment avec vous de Borges. Je vous propose d'aller chercher un contrepoint chez un autre grand écrivain sud-américain, en l'occurrence Gabriel Garcia Marquez. Et c'est avec vous, Mayalen Barasategui, que nous allons le faire. Bonjour Mayalen.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes collaboratrice du magazine littéraire, que vous êtes également spécialiste de la comtesse de Ségur. Vous revenez d'un voyage en Colombie sur les traces justement de Garcia Marquez. Et c'est pour ça que vous avez eu envie de parler de cet autre monstre sacré de l'Amérique du Sud. C'était comment alors ce voyage ?
C'était absolument fascinant parce que la Colombie est en pleine phase de transition en fait. Jusqu'à l'année dernière, Garcia Marquez, c'était le seul Colombien à avoir reçu le prix Nobel. Mmh. Mais l'année dernière, donc, le président colombien, Juan Manuel Santos, a été récompensé parce que il a réussi à obtenir un accord de paix avec les FARC, alors contre l'avis d'une courte majorité de la population, mais après plus de 50 ans de conflit. Donc là, c'est la transition absolue. Il faut réhabiliter les territoires qui étaient tenus par les FARC, réhabiliter les territoires qui étaient tenus par les paramilitaires, qui sont en gros des anti-FARC, des milices, qui parfois ont agi avec le soutien de l'armée et du gouvernement. Il faut rendre les terres aux personnes spoliées, il faut déminer, il faut trouver des nouveaux débouchés à ceux qui toute leur vie ont vécu de la guerre ou du narcotrafic. Il faut vérifier que les paysans spoliés ne continuent pas de l'être par les grandes entreprises qui sont sur place et qui n'ont absolument aucune envie de partir. Les prochaines élections ont lieu en mai. Elles opposeront les héritiers de l'ancien président Uribe, qui lui préférait un peu la reddition sans condition plutôt qu'un traité de paix avec les FARC, à l'actuel leader des FARC, qui sont reconvertis désormais en parti politique officiel. Bref, grosse ambiance en Colombie.
Alors, Garcia Marquez dans tout ça ?
Eh bien, Garcia Marquez dans tout ça, dans un pays dont le tourisme constitue le secteur économique le plus générateur de devises après le pétrole, c'est un très très bon moyen d'attirer des étrangers qui sont en quête d'activités culturelles. Donc pour l'instant, le phénomène n'en est qu'à ses débuts, on n'a pas de coloriage ou de petites marionnettes comme pour Mozart à Salzbourg ou comme pour Marie-Antoinette à Versailles.
Bientôt.
Pour l'instant, la femme de Garcia Marquez est toujours vivante et elle veille au grain, donc je pense que pour l'instant, ça va aller. Mais si vous allez à Cartagène des Indes, qui est l'une des villes les plus touristiques du pays, et où se déroule une grande partie de l'amour au temps du choléra, vous aurez par exemple des food tours Garcia Marquez, où vous pourrez déambuler dans la ville en mangeant dans différents restaurants.
C'est bien,
vous l'avez fait, alors j'espère. Je l'ai fait, on mange beaucoup et très bien. C'est terrible. Depuis quelques mois, il y a une ligne de bus qui relie Santa Marta, qui est une des villes touristiques aussi des Caraïbes, à Aracataca, qui est la ville natale de Garcia Marquez. Et donc, on voit une expérience assez étrange parce que sur les routes, vous avez des bus où s'agglutinent des touristes, mais sur les bus, il y a écrit 100 ans de solitude. Donc,
ah oui.
C'est une expérience très bizarre. C'est une ville, Aracataca, qui est maintenant en déclin. Mais quand Gabriel Garcia Marquez est né, elle connaissait une croissance exponentielle à cause des bananeraies. Ces bananeraies étaient exploitées par une grosse entreprise qui s'appelle la United Fruit Company. Mmh. Et en fait, elle payait ses employés en bons à dépenser dans ses propres magasins. Donc ça faisait tout un système économique comme ça. Et ça attirait des émigrants de partout. Et Garcia Marquez a raconté dans son œuvre le massacre des ouvriers grévistes de cette entreprise en 1928. Il y a 10 ans, la United Fruit Company a été condamnée à plusieurs millions de dollars d'amende parce qu'elle a financé des organisations paramilitaires chargées d'assassiner des syndicalistes. Donc vous voyez, ça continue. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus la United Fruit Company à Alakataka. Et c'est en partie la raison du déclin de la ville. Donc, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, le responsable du musée de la maison natale de Garcia Marquez, qui a été reconstruite à l'identique il y a quelques années, il a essayé de faire un référendum pour que la ville s'appelle Alakataka Macondo, Macondo étant le nom imaginaire que Gabriel Garcia Marquez a donné à l'endroit. Et en fait, ils n'ont même pas atteint le quorum nécessaire pour que le référendum soit valide. Donc la population locale, elle n'a pas trop l'air d'estimer que les retombées économiques peuvent vraiment lui servir à elle.
D'accord. Ils préfèrent garder United Fruits et la bananerie.
Ben, ils ne sont pas trop conscients, je pense, de ce qu'eux vraiment pourraient tirer, de ce que les compagnies de bus de Santa Marta peuvent tirer. Je pense qu'ils le voient bien, mais eux, sur place... c'est moins évident. C'est une ville qui n'a pas un niveau de vie très élevé. En revanche, là où ils voient bien leur intérêt, c'est qu'il y a une statue d'un personnage de Garcia Marquez qui s'appelle Remedios la Bella, Remedios la Belle, qui est une femme nue. C'est un peu leur équivalent de la Sainte-Thérèse du Bernin. Donc elle est au milieu de la ville, à moitié nue. Et cette statue-là, les jeunes de la ville l'ont déjà déboulonnée deux fois. Donc là, ils ont beaucoup plus de proximité avec Garcia Marquez.
D'accord.
Ce qui est très paradoxal dans ce souci des élites de développer un tourisme autour de Garcia Marquez, c'est que Garcia Marquez, contrairement à Borges, il a préféré quitter la Colombie et il a soutenu Fidel Castro, sa vie durant, donc il n'a pas tout à fait les mêmes orientations. Mais il offre au monde l'image d'une Colombie qui est touchante, qui est multiculturelle, et ça contrebalance très bien l'image d'un homme comme Pablo Escobar, qui est aussi très connu, notamment, et qui a été remis au goût du jour avec la série de Netflix.
Voilà, et qui fait aussi venir, j'imagine, des touristes.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi, le libéralisme économique étant ce qu'il est, des tours Pablo Escobar, au grand regret des élites colombiennes. Pour la Colombie, il s'agit donc de trouver comment concilier développement économique, lutte contre la corruption et création d'une histoire nationale commune. Voilà. Comme l'a dit Garcia Marquez en 98, il est temps de comprendre que ce désastre culturel ne peut se résoudre ni par les balles, ni par l'argent, mais par une éducation à la paix.
Donc Borges et Gabriel Garcia Marquez, rien à voir. Est-ce que vous savez si il y avait quand même une forme d'admiration de l'un pour l'autre et, dans les deux sens?
Borges, me semble-t-il, a dit avoir lu Garcia Marquez. Oui. Mais cela étant, ils ont tous les deux un certain rapport au surnaturel, je dirais, ou en tout cas
au fantastique.
Au fantastique, au surnaturel, à quelque chose qui dépasserait le réel. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, même si c'est de façon assez différente.
Bon, et ben tout cela reste à creuser. Merci beaucoup, Maïa-Hélène Berasategui, pour cette relation de votre voyage donc sur les traces de Gabriel Garcia Marquez, et puis donc à très bientôt. De la Compagnie des auteurs sur France Culture, nous sommes toujours avec l'écrivain et essayiste François Taillandier pour parler d'un autre écrivain argentin, celui-là, José Luis Borges.
La littérature est une forme possible et fréquente du bonheur, je dirais, de la félicité. Je crois qu'il faut voir la littérature du point de vue hédoniste, surtout. Du point de vue de la joie qu'elle peut donner. Par exemple, si je vous dis cette métaphore, la lune, le miroir du temps, vous sentez que c'est beau. Et le fait qu'elle était conçue au Moyen-Âge par un mystique persan est peut-être moins intéressant, non? Cette image est une belle image, parce que dans le miroir, vous avez l'idée de la clarté, de la fragilité, et en même temps, la lune est claire et fragile, et en même temps, elle est éternelle. Il est toujours là. Je crois que ce qu'il faut, c'est sentir les choses. Si un élève ne sent pas la beauté de la lune comme miroir de l'éternité, alors quelle importance il aurait qu'il sache que cela est de Hafiz, ou d'Omar Khayyam, ou de Rumi, ou d'Attar, ou de quelque autre poète persan? Aucune. Alors, il s'agit d'apprendre à mes élèves à jouir de la littérature.
D'ailleurs, votre œuvre est assez ludique. C'est un jeu aussi.
C'est un jeu, mais je n'ai pas défendu de jouer, non? Pourquoi ne pas être ludique, non?
« un entretien avec Jean Dève qui date de 1978. La littérature, c'est un jeu, François Taillandier. Ce jeu, c'est celui de la docte ignorance, nous explique Borges. Qu'est-ce que c'est la docte ignorance?
La docte ignorance, le dites-vous? Alors là, vous allez me préciser un petit peu parce que je...
Ah bah c'est Borges qui explique que le jeu, c'est celui de la docte ignorance. Mais c'est vrai qu'il a un rapport à la connaissance, et on commençait à en parler déjà en première partie de cette émission, qui est à la fois embrasser toutes les connaissances possibles et en même temps affirmer une forme d'ignorance en tous les cas.
Oui, d'accord. En ce sens-là, je crois que c'est, ça fait partie de son ironie. Ça m'évoque un thème de son œuvre sur lequel il revient très souvent, c'est le thème des théologiens. Mmh. Voilà, il s'est passionné pour la théologie chrétienne des premiers siècles. Il l'avait lu, comme tout le reste, bien entendu. Il en parle beaucoup. Et son propos est toujours de dire, oui, voilà, des gens qui ont savamment défini en des traités, en différents traités, ce qu'était Dieu... ce que était Jésus, en se lançant mutuellement des anathèmes, en brûlant les livres des autres, etc., etc. Et finalement, il ne savait rien.
En fait. Mais comme le reste, pour Borges, la religion, la philosophie, tout ça, c'est de la fiction. Fiction.
Je crois, voilà, vous le dites très justement, je crois qu'à ses yeux, l'œuvre de Spinoza, mettons, je dis ça au hasard, est tout autant une fiction que celle de Wells. Voilà. C'est une façon de représenter le monde. Bon. Alors, c'est.
Donc, c'est du relativisme total.
Je crois qu'il y a un relativisme de Borges. Oui, oui, oui. Ça, il n'y a aucun doute. Et en même temps, une fascination. Parce que quand il dit que la littérature peut et doit être ludique, oui, bien sûr. Dans son point de vue, on écrit pour rêver, pour songer. Ben, voilà, c'est tout.
On écrit aussi pour échapper au réel. Est-ce que ce relativisme, cette manière de vivre dans la littérature, ça n'est pas ce qui crée aussi de la mélancolie?
Oui, bien sûr. Oui. Il y a quelque chose d'un dilettante. Je crois que c'est dans la préface de Fiction. Il dit « J'écris pour oublier un peu la tristesse des longs après-midi inutiles » ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai plus la formule exactement en tête. Voilà. Mais c'est toujours pareil avec Borges, il dit ça, c'est aussi une pause un peu, c'est aussi une coquetterie. Hein. Voilà, j'ai écrit ça pendant les longs après-midi inutiles. Ça, il dit par exemple des choses du genre n'importe quel homme finit par se résigner à lire n'importe quel livre. Oui. Voilà, donc tout ça ne servira à rien. Il y a un sens de l'absurde peut-être aussi au milieu de tout ça.
Mais à la fin, on a quand même l'impression que la fiction l'emporte toujours sur la vie, que ce qui compte, c'est quand même la fiction. Et d'ailleurs, que le fait qu'il n'y ait pas de biographie ou très peu de biographie chez Borges, le fait qu'on connaisse très peu sa vie amoureuse, s'il y en a eu, ça accrédite cette idée que finalement, la vraie vie, c'est la fiction.
Oui, probablement. Et la vraie vie, c'est la bibliothèque pour Borges. D'abord, comme il l'explique lui-même, il a grandi avec une bibliothèque autour de lui, il a toujours eu l'impression que la vie était là, oui. Et que sa vie à lui ne comporte pas grand-chose. Et d'ailleurs, il a fini par être directeur de la Bibliothèque nationale de Buenos Aires, au moment d'ailleurs où il perdait la vue. Voilà. Borges a vécu dans la bibliothèque. Bon, il insiste sur le fait qu'il n'a pas de vie. Alors, c'est très relatif, mais enfin, il ne veut pas. Il est fasciné d'ailleurs par les gens qui sont des gens d'action. Lui, c'est le modèle absolu de l'intellectuel érudit qui passe son temps dans les livres et les paperasses, alors qu'il a une fascination pour les violents.
Oui, et même pour les petites frappes de son quartier.
Voilà, pour les jeunes un peu voyous, le gaucho, les guerriers, etc. Alors que Borges, c'était l'homme le plus pacifique du monde. À mon avis, il n'a jamais dû échanger un coup de poing avec qui que ce soit. Enfin bon.
Alors j'ai une citation aussi sur ce rapport réalité et fiction qui date de 1955. Il dit « J'ai cru pendant des années que j'avais grandi dans un faubourg de Buenos Aires. La vérité est que j'ai grandi dans un jardin derrière une grille en fer de lance et dans une bibliothèque aux innombrables livres anglais. Le Palermo du couteau et de la guitare rôdait au coin des rues, mais les personnages qui peuplèrent mes matins et donnèrent à mes nuits de délicieuses terreurs furent le boucanier aveugle de Stevenson, le génie emprisonné pendant des siècles dans l'amphore de Salomon et le prophète voilé du Khorassan qui, derrière les pierres et la soie, cache sa lèpre. C'est bien cela, cette vie dans la littérature.
Je crois qu'il l'a dit beaucoup mieux que je n'avais essayé de vous le dire auparavant.
Alors vous parlez d'un exotisme de Borges, cet exotisme qui au fond propose à notre rêverie d'autres lois, d'autres perspectives que celles acquises par l'éducation ou par l'expérience. À quoi ça renvoie?
Je crois que Borges a un imaginaire qui est fasciné par... Alors l'exotisme, non, je crois qu'il n'aurait pas aimé ce mot. Mais qui est fasciné par la diversité, certainement, des civilisations. Il l'a cherché à travers les voyages, à travers d'immenses lectures. Il essaye de comprendre ou de sentir comment d'autres hommes qui sont très loin de nous peuvent penser.
Dans le temps ou dans la géographie.
Dans le temps ou dans la géographie, oui. Il essaye de se demander... Il a écrit, par exemple, tout un livre sur le bouddhisme. Bon. Qui est d'ailleurs, enfin, où il dit à la fin, oh, bah, de toute façon, je n'ai peut-être pas compris grand chose, n'est-ce pas? Mais enfin, j'ai essayé. Voilà. Il a un très beau poème, c'est sur, dans ses dernières années, je crois, où il parle des labyrinthes qu'il a essayé d'explorer. Il parle, par exemple, du Japon. Je crois qu'il est allé une fois au Japon, il me semble. Enfin, il n'y a pas eu le temps d'en voir beaucoup. Et il dit, ce labyrinthe subtil, le sort n'a pas permis que j'y pénètre. Et on sent un regret, bien entendu. Voilà. Alors, l'exotisme, non, parce que, il dit, c'est pas parce que c'est de la littérature arabe qu'il faut qu'il y ait des chameaux à quatre pages, hein, à chaque page. C'est toujours pareil. Mais lui pratique, par rapport à son propre pays, aux traditions de son propre pays, nous propose un certain exotisme. Le nombre d'histoires de gauchos qu'il peut raconter, c'est extraordinaire. Et pour nous, c'est effectivement un autre monde qu'on a peut-être un peu de mal à saisir.
Alors que le gaucho, ils ont été inventés finalement dans les quartiers bourgeois de Buenos Aires, en tout cas leur poésie.
Leur légende.
Leur légende et leur poésie.
Et le fait d'écrivain. Hein. Oui. Eux, ils n'étaient pas dans la légende.
Allez, revenons un peu à la biographie.
J'ai toujours été contre Perón. Ma mère était en prison, ma sœur aussi, un de mes neveux aussi. Ils m'ont attaqué à travers les gens que j'aimais. Et puis on m'a un peu persécuté, mais d'une façon assez douce, non? Je ne m'en plains pas, non? Les gens prudents, il y a bien des gens prudents partout, tâchaient de m'éviter, non? Par exemple, j'avais écrit bien des textes sur la Divine Comédie, une société dantesque à Buenos Aires. Ils m'ont ignoré pendant tout ce temps. Puis après la Révolution, tout de suite, on m'a donné une conférence, et on a dit, enfin, nous avons Borges parmi nous. Après ce silence volontaire, ce silence prudent, c'est pas une question de politique, c'est une question d'éthique. Mm-hmm. Si un pays est gouverné par des gangsters, ce n'est pas un cas de penser, par exemple, à la gauche ou à la droite. C'est tout simplement la canaille qui est au pouvoir. Mais c'est non pas comme dictature, mais surtout du point de vue éthique. Du point de vue que ces gens-là étaient... Nous étions gouvernés, disons, par des macros et par des putains.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Borges avec François Taillandier. Et Borges qui vient d'évoquer dans cette archive son rapport avec Perón. Donc on sait qu'il a été un opposant au dictateur argentin, mais on a vu tout au long de cette émission qu'il y avait quand même un retrait de Borges par rapport au monde. Finalement, est-ce que la politique, ça l'a intéressé, Borges, parce que on sait qu'il a peut-être aussi failli avoir le prix Nobel, mais que sans doute ne l'a-t-il pas eu parce qu'il a serré la main à Pinochet. Quel est le rapport finalement au monde des idées concrètes, au monde de la politique de Borges, François Taillandier?
Ben, je crois qu'au départ, c'est un libéral, au sens ancien hein, du terme, au sens peut-être de Tocqueville ou de cette époque-là. Bon, il a une réaction effectivement radicale vis-à-vis de tout ce qui est régime de masse et même, même de tout ce qui est probablement oui, mouvement populaire ou populiste. Le péronisme est quelque chose qui ne peut pas supporter tout ça d'une vulgarité triviale. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire, on était gouverné par des macros et putains.
Mmh. Bon, oui, c'est la vulgarité qui, voilà. Qui est pour lui le plus irritant.
Oui, je pense. Bon, par ailleurs, comme à les différences, par exemple, de Garcia Marquez, il n'a jamais exprimé la moindre sympathie pour les mouvements révolutionnaires. Alors, on a un peu créé l'idée d'un Borges qui serait un réactionnaire, un homme de droite. C'est sans doute pas tout à fait faux. C'est un élitiste. Et je pense en politique partisan d'un libéralisme au sens où l'État n'a pas à s'occuper de tout. Enfin. Mais donc, en même temps, j'ai pas l'impression que ça l'intéressait beaucoup, tout ça. Oui, il n'a jamais été passionné dans ses engagements. Alors, effectivement, il a été embêté par le régime de Perón, qui l'avait nommé inspecteur des volailles et des lapins, ce qui était une façon évidente de vouloir l'humilier.
Il était d'abord bibliothécaire, et puis ensuite nommé à ce poste ridicule. D'ailleurs, il a démissionné tout de suite après.
Oui, évidemment.
Pourtant, ça peut être intéressant aussi.
De même que nous posons résolu, puisque au totalitarisme, on sait qu'il y avait de nombreux sympathisants du nazisme en Argentine, et il a toujours très très clairement exprimé une opposition radicale à ce genre de choses. Ouais. Après, il n'a pas de sentiment de gauche au sens où on l'entend un petit peu couramment. C'est pas son genre. Et je crois surtout qu'il y a du retrait. Vous savez, il y a une chose extraordinaire. Lorsque les péronistes reviennent au pouvoir, après plusieurs années, Borges publie un petit recueil de poèmes, et il a cette phrase extraordinaire, il fait une petite préface où il explique comment il a écrit ses poèmes, ce sont des considérations strictement littéraires. Et puis il termine en disant ceci, « J'ai conscience d'être tout à fait indigne d'exprimer une opinion en matière politique, mais je me hasarderai cependant à dire que je perds un peu confiance dans la démocratie, ce curieux abus de la statistique. Mmh. Voilà, ça c'est Borges.
Alors les dernières années de Borges, c'est beaucoup de conférences.
Oui.
Bon, il était aveugle, il en avait paraît-il besoin financièrement aussi.
Oui.
C'est des voyages un petit peu partout dans le monde. Il va se réinstaller hors de son pays, à Genève, une ville qu'il avait donc connue quand il était jeune et qu'il n'avait pourtant pas aimé du tout.
Oui. Oui, alors là, je ne sais pas. Le fait est qu'il passe de très longues années à donner des conférences un peu partout. Il en fait, c'est plus que les conférences, il en fait un art. Certaines, enfin beaucoup ont été publiées, ce sont des textes magnifiques, pleins d'humour, où cet homme aveugle se met à parler de tel ou tel thème, de tel ou tel auteur, vous fait des citations, des rapprochements éblouissants, etc. etc. Il fait de la conférence un art.
Oui.
Donc, et il est aveugle. Bon, bah, quelqu'un, enfin, sa femme notamment, l'accompagne, madame.
Et lui lit donc beaucoup de textes, parce qu'il est toujours avide, évidemment, de littérature. Et il demande à un certain nombre de jeunes gens, dont Alberto Manguel, qui est aujourd'hui son successeur, d'ailleurs, à la Bibliothèque nationale argentine, de venir lui lire des textes.
Il est très entouré, très soutenu, de toute façon. Et il prend. Il a cette passion étrange pour voyager. Alors que bon, bah, il ne voit rien, mais ça fait rien. Il veut sentir, il veut rencontrer, il veut parler. Il rêve le monde dans sa cécité à travers ses poèmes, à travers ses conférences, à travers ses nouvelles, etc., etc. Pour quelles raisons se fixe-t-il à Genève? J'avoue que je n'en ai aucune idée.
Oui. Peut-être souhaitait-il tout simplement échapper à une sorte de popularité qui devenait pour lui un peu étouffante. Pourquoi de folklore?
Oui. Peut-être qu'il voulait échapper à ça. Genève, oui, ça fait un peu hors tout, quoi. C'est,
hein. En tout cas, il a travaillé à la disparition, à l'effacement du moi en tant qu'auteur et aller justement de l'autre côté de l'Atlantique, c'est peut-être justement pour s'effacer.
français. C'est possible, mais je vous avoue que je ne sais pas trop. Je sais que lorsque il est question de préparer l'édition de la Pléiade, Jean-Pierre Bernès, qui est désigné comme le responsable de ça, Borges, paraît-il, enfin c'est Bernès lui-même qui m'en a fait état, Borges, paraît-il, lui dit, eh bien maintenant, vous êtes condamné à être ma mémoire.
Merci beaucoup François Taillandier pour cette plongée.
Et merci pour lui.
Merci pour Borges. Bah oui, allons-y. Plongée dans la vie et dans l'état d'esprit, on l'espère, de Borges. Vous êtes l'auteur donc de cet essai Borges, une reconstitution du monde, paru en 2003 au Mercure de France. Et puis je signale par ailleurs que paraîtra au début de l'année prochaine votre biographie d'Edmond Rostand à l'occasion du centenaire de sa mort. Demain, nous serons en compagnie d'Annick Louis pour parler de l'érudition, de la critique du fascisme et de la métaphysique de Borges. Mais tout de suite, eh bien, c'est Jacques Bonnafé.
Bonjour et bonjour à tous, bonjour la compagnie. Voici la semaine revue un peu, puisque papier ou net, elles sont nombreuses et continuent d'irriguer l'actualité poétique. Dans la série Revue, je tire l'intitulé Remue.net et à l'onglet auteur, Jean-Pierre Luminet a, excellent poète, un trou énorme dans le ciel. Citation. Tu peux avoir tout ce que tu veux. À toi de prendre. C'est quoi au juste la beauté? Une façon de voir le monde sans crainte. C'est du sang. C'est la saison qui vient de se rouvrir. On a tous des blessures. Je ne suis pas censé être quoi que ce soit. Nos habits se ressemblent tous. C'est aux éditions Bruno Doucet. Il se peut que nous ne soyons pas exactement celui, cela que nous croyons, craignons, souhaitons être. Alors, tout devient possible. Ça, c'est David Giannoni dans « Œil ouvert, œil fermé », qui est paru aux éditions Maelstrom. Et justement, aux mêmes éditions Maelstrom, je feuillette la Pinède de Martin Wable. C'est sorti en bookleg, qui sont des petits livres de l'instant de performance, des actes poétiques, et en tant que tels, ils ne suivent pas les logiques habituelles du marché. Pourquoi devrions-nous vivre ce que vous avez vécu? Pourquoi devrions-nous suivre ce que vous avez suivi? Nous ne sommes pas vous. Nous, nous avons nos vies. Je ne cultiverai pas d'autres sentiments, quoiqu'autour se dresse une digue faite de roches à la pointe de la crèche. Les yeux glacés, on voit s'ensevelir des étoiles dans un bain d'encre froid. Le ciel est clair encore à l'ouest, des lumignons anglais crépitent à l'horizon. Image récurrente de l'auteur du jeune homme natif de Boulogne-sur-Mer, l'œil tourné au septentrion, dit-il plus loin, où point le premier réverbère d'une illustre constellation, il pense, faudra-t-il faire un vœu quand ils fileront au loin les prochains phares automobiles? Le lendemain, l'écume a parcouru ses pensées, sa cervelle est un poulpe échoué. Il parvient, à l'aide d'un bâton, au premier site, le rose pâle désert se heurte entre les rues. C'est en l'occurrence dans la Folkestone qu'il s'arrête. Les immeubles vous accueillent et leurs lumières sont proches, adaptées au climat lunatique de la mer. Le jour, finalement, se lève gris. Il est écrit. Silence, ici aboient les chiens de notre enfance. Et je m'incline, au pied des murailles. Elle parle d'une langue si morte qu'elle est un murmure. Il est écrit en lettres blanches. Partons. Il est écrit en lettres blanches. Restons. Car c'est ici qu'une poubelle emprisonnée contient notre oubli. Faut-il partir, rester, si tu peux rester, reste, pars s'il le faut. On croit entendre quelques vers de Baudelaire. Pour tromper l'ennemi, vigilant et funeste, le temps, il est hélas des coureurs sans répit.
Merci Jacques Bonnafé, vous lisez toute cette semaine les textes de divers poètes que vous avez repérés dans des revues de poésie contemporaine. Aujourd'hui, c'était Jean-Pierre Luminet et Martin Wable.